Donc, ces rituels-là avaient continué pendant la sédentarisation et étaient nourris avec une très, très forte créativité par le rêve. Quelque chose qui a toujours existé, que c'est par le rêve qu'on venait nourrir de nouveaux motifs à peindre sur le corps, à chanter et à danser, mais aussi. Ces choses-là qui étaient stimulées quand il y avait des catastrophes dites naturelles pour nous, qui sont les incendies, les grands incendies qui détruisent tout, les inondations, les comètes. Enfin bon, les aborigènes sont là depuis 60 000 ans. Ils ont vu des transformations inouïes du paysage. Il n'y avait pas de désert à une époque. Jusqu'à 7 000 ans, les 4 000 îles qui sont autour étaient séparées du continent. Il y avait des volcans qui se sont éteints. Il y avait une mer intérieure et une forêt là où il y a le désert aujourd'hui. Bref, eux, ils ont résisté à toutes ces transformations climatologiques qui, d'une manière ou d'une autre, sont présentes dans certains de ces récits dits totémiques qu'ils appellent Chukulpa Kuruwari, image force, mais aussi Chukulpa rêve. Et donc, toute cette cosmographie, cartographie cosmologique est une politique, mais une politique de la multiplicité complémentaire. Et ce qui a été perçu comme une exclusion des femmes du sacré était en fait un refus déjà d'accepter une différenciation qui est valorisée par ces groupes-là. Ce n'est pas tous les aborigènes hein, en Australie, c'est particulièrement les groupes du désert qui sont organisés de cette façon-là. Et donc, par exemple, quand je suis arrivée, il y avait un rituel en cours depuis des mois avec une vingtaine de garçons qui étaient en confinement en brousse, en confinement rituel. Et du coup, les genres, les hommes et les femmes, étaient confinés séparément. J'utilise exprès ce terme confinement parce que je dois dire que moi, j'avais 23 ans à l'époque, ça m'a énormément choquée. On avait beau camper en plein air. Je me suis sentie complètement prisonnière de cette situation puisque les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'est, à l'ouest et au nord des campements et de la communauté parce que risquaient d'arriver des initiés d'autres communautés avec des hommes et il ne fallait pas qu'il y ait croisement de ces lignes de genre. Et donc, j'ai eu un peu de mal au départ à accepter ça. J'ai complètement perdu. Alors, je ne peux pas dire que c'était juste une expérience de solitude. Je me suis dissoute dans un corps collectif de femmes où je n'avais plus le sentiment de sentir le bord de mon corps. C'est-à-dire que quand j'étais assise avec les femmes qui me peignaient, qui me demandaient de peindre, qui me demandaient de chanter, ça j'avais du mal. J'essayais désespérément, mais j'ai toujours du mal à chanter. Qui dansait, ça allait. Il y a eu une espèce de perte des repères, des repères auxquels j'étais habituée d'individuation, en fait. Et pourtant, déjà, j'étais assez ouverte à toute une série d'expérimentations avant, mais là, c'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose de narcissique qui est complètement tombé, où je n'arrivais plus à me reconnaître, à me reconnaître dans le miroir, en fait. Et souvent, on dit que les peuples autochtones, d'une manière générale, quand ils ont été confrontés au miroir, ils ont interprété ça comme un double. Il y a chez les aborigènes aussi un tabou sur l'image des morts. Mais c'est qu'en fait, l'image pour beaucoup de ces groupes-là, et c'est le cas pour les Walpiri, n'est pas une question de représentation. Hein, je répète, image force, donc le pouvoir des mots, c'est le pouvoir des images. Et donc ça ne veut pas dire que ça représente ni le mot est insignifiant, ni l'image. Est signifiante. Hein. On ne peut pas l'analyser en termes sémiologiques, même si certains ont essayé de le faire. Et quand les aborigènes du désert, et particulièrement les femmes dans les années 80, se sont mises à transposer leur cartographie de peinture corporelle sur des toiles, elles ont transcrit ces cartographies-là, donc comme chasseuses, chasseresses qu'elles étaient. Hein, en Walpiri, il y a un seul mot pour chasse et collecte. Pourquoi? Parce que c'est l'action de pister. Quand on piste au sol un animal, on piste aussi au sol des plantes, hein, dans le désert. Et donc c'est wirlini, c'est un seul mot. Donc ces chasseresses, comme les chasseurs, ben, je veux dire comme les autres, comme les peintres hommes du désert, ont un système d'indices pour peindre des cartes de manière topologique. Donc, ce qui compte, ce n'est pas la distance entre les lieux, mais c'est les rapports entre les lieux. Les lieux, en général, c'est des cercles. Et les lignes qui relient ces lieux, droites ou méandreuses, correspondent au parcours des héros, des peuples totémiques, multigenrés, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, chacun a ses manières de combiner ces lieux qui sont des toponymes réels dans le désert et qui sont des sites sacrés et pour lesquels justement on fait ces rituels qui sont toujours des lignes de chant, des lignes de danse et des cartographies peintes. Et bien quand tout ceci a été transposé sur des toiles, et bien c'était pareil, les images ne représentaient pas le territoire, ne représentaient pas les ancêtres, ne représentaient pas des totems, les images étaient des images forces, kuruwari. Et donc quand elles ont commencé à être vendues sur le marché de l'art contemporain, et bien l'impact politique qu'elles ont eu par retour en Australie pour la reconnaissance des terres aborigènes a fait dire à beaucoup d'aborigènes du désert que, en fait, leur piste de rêve totémique avait traversé l'océan pour venir se situer dans les lieux où les peintures aujourd'hui sont exposées, que ce soit chez des privés ou dans des institutions. Donc, autrement dit, leur vision cartographique de ces lignes totémiques correspond à un espace qui n'est pas juste l'espace de la géographie australienne de leur territoire. Donc là, c'est leur nous exclusif en tant que Walpiri ou en tant que plus particulièrement tel groupe local qui est gardien d'une ligne totémique. Ce n'est pas juste ça, c'est l'espace-temps du rêve de cette ligne totémique qui est à la fois qui est Kanunchu, c'est-à-dire dessous dans la terre, où dorment les esprits de rêve, ces ancêtres hybrides avec lesquels on peut communiquer et qui vous donnent de nouveaux chants et de nouvelles peintures, de nouvelles danses. Kanunchu, c'est aussi l'au-delà de la Voie lactée, puisqu'il ne perçoit pas le ciel comme plat, comme on l'a fait longtemps, enfin en tout cas dans une certaine interprétation de l'astronomie occidentale, parce qu'encore une fois, il y avait des peuples païens qui ne voyaient pas du tout le ciel comme plat. C'est pas comme si, de manière évolutionniste, les humains ont vu le ciel comme plat et puis un jour, ils ont découvert qu'il n'était pas plat. Et pareil pour la Terre. Enfin, je veux dire, les cosmogonies, elles sont beaucoup, beaucoup plus complexes. Elles sont beaucoup plus proches des théories en astrophysique qu'on peut avoir aujourd'hui, comme les notions de multivers, plurivers. Et donc, justement, ces lignes totémiques sont des plurivers. C'est-à-dire que chaque ligne, en fait, quand elle vient jusqu'à Paris, à Londres ou à New York, ou chez des collectionneurs en Chine ou au Japon, j'en sais rien, eh bien, en fait, elle emmène son monde, qui est un autre espace-temps. Et là, le multiple d'un groupe de 4000 Walpiri, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'agencement, à un moment donné, dans le temps, parce que ça va changer à chaque génération, de ces lignes de multivers. Et c'est cet agencement-là qui se performe dans les rituels et dans la vie, dans les échanges avec leurs voisins, à travers toute l'Australie, malgré les différences de langue, où des choses étaient échangées, matérielles et immatérielles. Alors, c'est intéressant aussi quand les hommes et les femmes font leurs rituels séparément, s'il s'agit, comme j'avais pris l'exemple tout à l'heure de cette deuxième initiation des garçons, où leur pénis est subincisé pour saigner comme des femmes, hein, on n'est pas dans le complexe d'Œdipe et la castration ici, il y a vraiment un vécu existentiel et rituel chez les groupes du désert du fait que les hommes ne saignent pas comme les femmes et ça leur manque. Voilà. Et donc, pour devenir un homme, il faut pouvoir saigner comme une femme. Cette expression est extrêmement importante parce que, en fait, ce qui est valorisé dans la séparation rituelle des sexes, c'est que les hommes rejouent, revivent, réénactent des devenir femmes, multigenrées, multi-espèces, et les femmes font la même chose de leur côté. Mais ce n'est pas la même chose d'être une femme kangourou-homme ou un homme kangourou-femme. Ce n'est pas la même chose d'être une femme pluie-homme ou un homme pluie-femme. Et vous voyez combien de fois vous pouvez multiplier les choses en prenant tout ce qui est nommé en fait dans la nature et dans la culture pour nous, enfin dans leur univers de référence du vivant. puisque les plantes sont vivantes, évidemment, comme les animaux, mais aussi les pierres, les lieux, etc. Donc voilà, pour pouvoir faire ce travail, je reboucle avec le business des hommes n'est pas la même chose que le business des femmes. Pour arriver à cette androgynie multigenrée, multi-espèce, il faut être séparé. Et pourquoi il faut être séparé? Parce qu'on n'a pas le même corps. Et donc, c'est quoi cette histoire de corps? Eh bien, c'est une histoire de potentialité. Et donc, l'image qui était utilisée déjà en 79 par les Walpiri, c'était de dire, c'est comme chez vous l'électricité. Enfin, qu'est-ce qu'il l'avait aussi? C'est pour le positif, négatif, il faut les deux pour faire de l'électricité. Et nous, il nous faut les deux, il faut séparer les deux pour faire agir les forces qui réactualisent la fertilité de toutes les espèces et des humains et de la vie de la Terre, l'équilibre des vents, des pluies contre la sécheresse, etc.